الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. On va entrer dans le vif du sujet, étant donné que on n'a pas énormément de temps. L'amour, الحب. Comme l'a dit le frère, c'est vrai que c'est assez tabou dans notre communauté, malheureusement, que de parler de l'amour. Généralement, quand on parle de l'amour, on parle de l'amour de Dieu et de son prophète. Point final. Et on survole ou on évite la plupart du temps de parler de l'amour qui doit exister entre eux, les époux. Et si on parle de l'amour, on parle de l'amour en Dieu. Puis ce sont des notions qui sont un peu spirituelles. Et dans le couple, on veut du concret. J'ai pas encore, hein, ça fait une vingtaine d'années qu'on assiste au discours du vendredi, entendu un imam nous faire une khotba sur l'amour, comment aimer son épouse, comment aimer son époux, la recette au quotidien. Pourquoi ? Peut-être parce que, et ça serait peut-être la pire des réponses, nos imams qui sont nos modèles, nos guides, ou ceux qui sont censés être les modèles et les guides, n'y croient pas et ne vivent pas cette notion, cette belle notion de l'amour. Et c'est vrai que c'est dur de parler d'une chose qu'on ne connaît pas. Et c'est encore deux fois plus dur de parler d'une chose qu'on ne vit pas. Alors, si je vous parle de l'amour aujourd'hui, je ne vais pas tourner autour du pot. Ce que je vais vous dire, ça sera ce que je vis, ce que je ressens. Il manque juste ma femme. Elle est à la cuisine. Non, c'est parce qu'on a eu des invités, donc elle n'a pas pu venir. Donc elle est dans sa cuisine, Skena, en train de faire du jihad. Et il aurait été judicieux qu'elle soit là afin qu'elle nous parle de l'amour, elle aussi, pour que ça soit équilibré. Parce que c'est difficile, vous savez, en tant qu'homme, de parler de l'amour à la place d'une femme. Si je peux vous en parler à travers les livres, ce que disent les psys, les sociologues, mais ça restera peut-être un peu trop théorique. Alors l'amour, c'est la plus belle des choses, il n'y a rien à dire. Une vie sans amour est une vie qui peut-être ne vaut pas la peine d'être vécue. L'amour, c'est la nourriture. Nourriture du cœur, nourriture de l'esprit, c'est ce qui nous permet d'être équilibré. C'est si beau, c'est si important que ça coûte cher. Et ce qui coûte cher, écoutez, il faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est rare. Il faut vraiment chercher après, et puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut le préserver, il faut l'entretenir. Alors ne rêvez pas. C'est tout un art que d'aimer et de se faire aimer. C'est un art que d'aimer et de se faire aimer. C'est un travail au quotidien. Ce sont des efforts que vous devez faire tous les jours pour aimer votre époux, votre épouse. Il faut y croire. Il faut être convaincu que nos épouses, donc j'ai toujours parlé en tant qu'homme, que nos épouses sont un don de Dieu, que nos épouses sont un trésor, et le meilleur des trésors. Donc il faut les respecter, leur donner de la valeur, tenir à elles, les chérir, les choyer, les protéger. Si vous la considérez comme un meuble ou la moitié d'un être humain ou un malheur qui vous a frappé, une erreur de la vie, vous allez avoir du mal à l'aimer. voire même vous allez finir par la détester et votre vie va devenir un enfer et la sienne aussi d'ailleurs. Donc l'amour commence par quoi ? Par la vision qu'on a de l'autre. Comment vous considérez votre épouse ? Si elle a de la place dans votre intelligence, votre cœur, dans votre vie, et tout à fait normal que vous occupiez d'elle et que vous sacrifiez pour elle. Sinon, elle devient un fardeau. Et un fardeau, on veut s'en débarrasser, on ne l'aime pas. Et je pense que c'est un facteur essentiel qui fait que l'amour finit par disparaître dans le couple. Après quelques mois pour certains, malheureusement, quelques années pour d'autres, l'épouse devient un mal nécessaire. Elle est là, on n'a pas le choix. On ne peut pas être seul, il y a des gosses, il y a la famille, etc., etc. Donc, je fais avec l'engin, le truc. Et on finit par détester la personne. Et c'est le comble. Avant le mariage, c'était l'amour à la Roméo et Juliette. Pendant le mariage, et encore, certains se disputent le jour du mariage. Et puis, avec le temps, et c'est ça qui est difficile à comprendre, on finit par se détester, se haïr. Et on passe d'un extrême à l'autre. Et Dieu n'aime pas les extrémistes. Donc, mettez-vous dans la tête que la plus belle des choses que Dieu puisse vous offrir après la foi, c'est une bonne épouse. Vous allez me dire, oui, mais si je ne l'aime pas, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Et les problèmes commencent. Et vous savez tous que le « tue ». Hein ? Elle n'est pas bien, elle n'est pas bonne, je ne peux pas l'aimer. On ne se pose jamais la question, c'est peut-être de ma faute, j'y suis pour quelque chose. Comme nous sommes responsables de nos épouses, on doit les nourrir, on doit les vêtir, on doit les loger, on doit leur permettre de s'épanouir. Nous sommes aussi responsables, vous savez de quoi ? De l'amour qui doit exister dans le couple. Nous, les hommes, nous sommes responsables. On doit préserver, garder, entretenir, faire fructifier cet amour. Sinon, le couple est en danger. Savoir avec qui vous dansez, donner de la valeur, importance, c'est un trésor. Et d'ailleurs, si vous êtes normalement constitué, notre prophète a dit « Celui qui meurt pour défendre son honneur est martyr ». En principe, si on est prêt à mourir pour son épouse, c'est que vraiment elle doit tenir. Hein, elle tient à nous, on tient à elle. Je ne sais pas si vous êtes déjà... imaginez cette scène. Vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui insulte votre femme, qui l'agresse. Qu'est-ce que vous faites ? Vous réagissez comme un lion, n'est-ce pas ? Vous sautez sur la personne. Ça peut même aller jusque homicide involontaire. Ma main a coupé. Le lendemain, vous disputez. Le lendemain... Je ne sais pas ce qui peut se passer, vous allez peut-être lui exprimer plus de l'amour mais de la haine. Alors si vous êtes prêt à mourir pour cette personne ou à tuer pour elle, elle a besoin de le sentir, de le ressentir tous les jours. Deuxièmement, quand on aime, on le dit. Et c'est un gros problème dans le couple. Plus de dialogue. Une fois les amourettes terminées, avant le mariage, et quelques mois après, c'est le silence. Les sentiments existent sans doute, mais ils ne sont plus exprimés verbalement. Et le diable intervient et il met dans la tête de votre conjoint que vous ne l'aimez pas parce que vous ne lui dites pas. Et la sunna, c'est lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait savoir. Va lui dire que tu l'aimes. Donc il faut le dire. Et comme on est capable de dire des paroles qui blessent et qui font du mal, soyons deux fois plus capables de dire des paroles qui font du bien. Je crois que rien de meilleur sur cette terre, si ce n'est que d'entendre la personne avec qui nous partageons tous des compliments et puis des paroles d'amour. Vous savez, votre épouse, vous rentrez le soir, elle est fatiguée, vous ne savez pas ce qu'elle a subi la journée. Un mot bien placé qui va direct dans son cœur peut effacer toute sa galère quotidienne et lui redonner une force extraordinaire qui lui donne le goût de vivre. Et elle a tellement, grâce à vous, repris le goût de vivre qu'elle vous shoot. Elle vous transmet la vie. Et une femme donne la vie. Une femme donne la vie. Mais pour qu'elle donne la vie, il faut qu'elle aime. Et pour qu'elle aime, il faut qu'elle se sente aimée. Et une fois qu'elle est sûre d'être aimée, elle ne connaît plus les limites dans le sacrifice. C'est pas si compliqué que ça. On se complique la vie. Croyez-moi que dans le couple, on se complique la vie. Une belle parole, des belles paroles au quotidien, et vous faites de votre foyer un morceau du paradis. Donc, dites-le. Dites-le et montrez-le à travers les gestes. On est étonné quand on lit les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait sa femme pendant qu'il jeûnait la journée. Quand on a dit à Aïcha, oui mais c'est le ramadan, elle dit le prophète savait se maîtriser. Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'il l'embrassait alors que ça n'allait pas se terminer en rapport sexuel? Parce qu'on croit que si le prophète il embrasse sa femme, c'est une introduction au rapport sexuel. C'est faux. L'embrassade, le baiser, l'accolade, c'est une manière d'exprimer ses sentiments. Pendant le ramadan, la journée, c'est beau, vous ne trouvez pas? On pourrait croire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la journée, c'est le ramadan, c'est du dhikr et du Qur'an. Oui, c'est du dhikr, c'est du Qur'an et des baisers à sa femme. Il ne l'oublie pas. Parce que ça aussi, c'est une manière d'adorer Dieu. Que de faire plaisir à son conjoint, vous savez, de le rendre heureux. Hein? Pousser, faire que la personne sourie, c'est une sadaqa. Et sourire à la personne, c'est une sadaqa. Et les sadaqa, avant de les faire à l'extérieur, il faudrait les faire à la maison d'abord. Les frères... quand il cite le hadith, quand on aime quelqu'un, il faut lui dire que tu l'aimes. Il pense toujours que le hadith il parle des hommes. Quand tu aimes un mâle, il faut lui dire je t'aime. Et on oublie de quoi? On oublie, ça commence par qui? Ben, ça commence par sa femme. C'est elle la première à qui il faut dire je t'aime autant de fois que tu veux. Donc on le dit et on le montre. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on aime bien être à côté de lui. Hein? On aime sa proximité. Hein? On aime toucher la personne. Donc, la proximité, les gestes. Et puis le prophète, alayhi salam, a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, avant le mariage, des cadeaux, je ne vous dis pas. Hein. Ça y va. On ne sait même plus quoi en faire tellement il y en a. Une fois le mariage, la galère de tous les jours, on oublie. On oublie. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Hein, on a l'habitude, tu me connais, je te connais. Non. Vous pouvez pas. Vous savez, le geste, c'est le reflet, c'est l'expression visible de quoi ? De ce que vous avez dans le cœur et dans la tête. Nous, on a grandi comme ça, fil haqiqa. L'éducation y est pour beaucoup. Hein. On n'a jamais vu nos parents amener des fleurs ou bien je sais trop quoi à nos mères. On n'a jamais vu nos parents, je ne sais pas, exprimer leur amour à nos mères en notre présence. C'est chouma, c'est la honte. Il y a des musulmans d'ailleurs qui ne sont pas comme ça. J'ai ma nièce qui est dans une ville où il y a beaucoup de musulmans du Cham, de la Syrie, du Liban. Elle me dit, quand elle va leur rendre visite, elle est gênée à la honte. Vous savez, l'éducation, à la honte, elle est gênée. Parce qu'il faut voir comment ils s'expriment, comment, devant leur épouse, etc. Et c'est naturel chez eux, c'est normal, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Chez nous, les sentiments existent, hein. On ne dit pas qu'entre nos parents, il n'y a pas d'amour. Mais ils les expriment autrement. Alors peut-être que ça marche entre eux, mais apparemment chez nous, ça ne marche pas tellement. Hein, on est d'une autre génération. Non, mais il faut dire la vérité. Hein, à chaque génération, ses méthodes, ses coutumes, ses habitudes. Donc montrez-le. D'accord ? Montrez-le. Ensuite, faites-lui savoir que vous l'aimez en présence des autres, pas à huis clos. Ouais. À huis clos, vous savez, elle va finir par dire, bon allez, c'est bon, je sais que tu m'aimes, arrête. D'accord. Tu me l'as dit 50 fois dans la journée. Essayez de lui dire en présence des autres. Et c'est bon ça. Vous allez me dire, oh, attention, le neuf, il va prendre du volume. Non, n'ayez crainte. Ouais. Au contraire. C'est là où il va y avoir un épanouissement chez la personne. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Hein, en public, il disait, j'aime, qui ça ? El Hassan. Et ceux qui l'aiment, m'aiment. Il disait, Fatima est une partie de moi. Celui, je l'aime, celui qui lui fait du mal, me fait du mal. Amr ibn al-As le questionne au prophète, quelle est la personne que tu aimes le plus ? Il lui dit, ma femme Aïcha. Il dit non, les hommes. Il dit son père. Et après, Omar. Bon, j'arrête là parce que peut-être que je suis. Hein? Il attendait que le prophète lui dise c'est toi le numéro un. Le prophète, il est sincère. Il dit c'est ma femme. Mais quand même, vous rendez compte, en public, le prophète dit la personne que j'aime le plus, c'est ma femme. Et je ne vous dis pas quand c'est arrivé aux oreilles de qui ? De Aïcha, qu'est-ce que ça a fait comme. Hein ? On ne peut pas le décrire tellement c'est fort. Les sentiments, c'est quelque chose de puissant. Donc le dire en présence des autres, afin que ça arrive aux oreilles de qui ? De nos épouses, pour qu'elles sentent que ce que vous dites, c'est sincère, c'est réel, et puis ça valorise la personne. C'est bon, elle est sûre d'elle. Il me l'a dit en privé, c'est pas du cinéma, il l'a dit en public, il l'a montré. Alors qu'est-ce qui reste ? Mais il ne reste plus qu'à lui rendre la monnaie. Hein ? Aime, il y a beaucoup de chances que tu sois aimé. Quand on aime quelqu'un, nous avons de la miséricorde envers cette personne. De la miséricorde, rahma, de la pitié. Si vous prétendez aimer vos épouses, vous devez avoir pitié d'elle, de la miséricorde. Elle est malade, le frère il rentre chez lui, il ne lui demande même pas des nouvelles, comment tu vas. Il ne se soucie pas, est-ce que le médecin est passé ? Non, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Alors que quand quelqu'un est malade, il aime ce qu'on soit à son chevet, qu'on soit à ses côtés. Et nous on a tendance à quoi ? À ne pas être présent quand la personne souffre pour la réconforter. C'est très important. Quand la personne est fatiguée, oui, laisse, je m'en occupe, va te reposer, va t'asseoir. Quand la personne fait un travail et elle n'est pas fatiguée parce que je l'aime, j'ai de la miséricorde, je mets la main à la pâte. Ibn Hajar radiallahu anhu explique le hadith de Aïcha qui dit, lorsqu'elle a été questionnée, que fait le prophète quand il est chez lui, elle dit, il est comme tous les hommes, si elle savait, il est comme tous les hommes, il participe, ouais. Il est présent dans la maison, il met la main à la pâte. Ibn Hajar dit, c'est bien une preuve de la grandeur d'âme du prophète et de ses qualités extraordinaires. Vous savez, je ne pense pas que sa femme avait besoin de son aide. Hein, la pièce, elle était tellement petite. Hein, le ménage était vite fait, il n'y avait même pas de vaisselle. Hein, le prophète vivait dans des... Et malgré cela, il participait. Pourquoi ? Pour montrer justement à sa femme que je pense à toi et je me mets dans ta peau. C'est très important, hein, avoir de la miséricorde. Souffrir quand elle souffre, hein? Partager la galère avec elle. Les femmes se plaignent des maris qui démissionnent en fait, quelque part. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même à supporter comme fardeau, puisqu'il y en a déjà un à l'extérieur, un deuxième à l'intérieur. Et quelque part, elles se disent, s'il m'aimait, s'il tenait vraiment à moi, il serait un peu plus présent, il partagerait. Donc, c'est important. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour créer les conditions pour que l'amour augmente. C'est vrai que les conditions sont nécessaires. Ainsi, les sorties sont nécessaires. On sort ensemble, on voyage ensemble, on rend visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit une invitation d'un de ses voisins. Je t'invite, ô envoyé de Dieu. Il lui dit, je viens avec elle, mon épouse. Il lui dit, non, toi tout seul. Il lui dit, je viens pas. Il revient à l'attaque une autre fois. Prophète, je t'invite. Elle, non, je viens pas. Et une troisième fois, je t'invite, elle, bon, elle est d'accord, tu peux venir avec elle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre à sa femme que bon, il tient à elle, il veut lui faire plaisir, mais aussi, viens, on va sortir ensemble, ça fait beaucoup de bien. Vous vous rendez compte, quand il voyageait, il voyageait rarement seul, il prenait toujours avec lui une ou plusieurs de ses épouses. Même quand il allait au champ de bataille. Une femme, elle aime bien se retrouver avec son mari à l'extérieur, voir, parler. Vous voyez, quand on est entre quatre murs, on n'a plus tellement de choses à se dire. Mais quand on se retrouve à l'extérieur, il y a des rencontres, il y a des conditions qui font qu'il y a des sujets de discussion. Donc c'est important, vous savez, créer les conditions, rendre visite, changer d'atmosphère, respirer l'oxygène. Se rappeler. C'est bien de faire des flashbacks. Hein? Voyager, se rappeler. Hein? Tu te souviens de ceci, tu te souviens de cela, ça fait du bien. Hein? Se rappeler les moments de bonheur, les moments forts. Hein? Ne jamais oublier. C'est encore une condition que vous créez pour que l'amour se développe. Ensuite, n'hésitez pas, pour que l'amour se développe, de temps en temps, de vous éloigner les uns des autres, momentanément. Parce que quand on se retrouve, on a beaucoup de choses à se dire et puis on était impatient de se retrouver. « Zur ribban tazdado hubban » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Si tu veux que je t'aime, rends-moi visite, mais pas tous les jours. » D'accord, je vais finir par te détester parce que tu me prends la tête. De même, c'est bien de temps en temps, allez, va voir ta mère pendant 4-5 jours, hein, va rendre visite, tu sais, à ta sœur qui se trouve je ne sais plus où. Et puis quand on revient, oh, tu m'as manqué. Ouais, on se remet dans des nouvelles conditions. Ça fait que l'amour augmente. Qu'est-ce qui fait que l'amour diminue, voire disparaît? Primo, quand on a une conception erronée de l'amour. Et en tant que jeunes occidentaux, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que l'amour. Pour nous, l'amour, c'est l'amour qu'on a vu dans les films, l'amour des romans, à l'eau de rose, ou l'imagination. On ne sait pas tellement ce que c'est que l'amour. Vous me direz, c'est normal, on n'a pas d'expérience. On n'a pas d'expérience. Si, mon œil. Sulama rahima rabbuk. Mais on voit, vous savez, dans les cours de récréation, à l'école, dans la rue, les garçons, des filles qui se tiennent la main, qui s'embrassent, qui rigolent. Et puis, on croit que tout ça, c'est de l'amour. Il doit y avoir de l'amour, sans doute, mais c'est un amour éphémère, superficiel. Je ne pense pas qu'il soit profond. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne dure pas longtemps. Alors, il faut bien savoir ce que c'est que l'amour. On n'aime pas une personne uniquement parce qu'il a un aspect physique qui vous plaît. Ça compte, ça joue, mais je pense qu'il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour leur grandeur d'âme. C'est important. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le plus haut degré de foi, c'est d'aimer en Dieu et de détester en Dieu. » C'est-à-dire quoi aimer en Dieu? C'est-à-dire aimer ce que Dieu aime, aimer en la personne ce que Dieu aime. Donc essayez, vous savez, d'aller vers ce qui plaît à Dieu, essayez de se rapprocher de la personne en respectant la loi de Dieu et en cherchant en la personne le maximum de choses qui plaisent à Dieu. Et ne commencez pas votre vie de couple pour ceux qui ne sont pas encore mariés avec le péché. Car les péchés, malheureusement, une fois qu'ils ont été faits, ont toujours un impact négatif sur la personne. Donc, ne commencez pas votre vie amoureuse en désobéissant à Dieu. Ensuite, sachez que le croyant n'a pas à détester la croyante. Le mari n'a pas à détester son épouse parce qu'elle a des défauts. Des défauts à la non, c'est inhérent à sa personne, comme vous d'ailleurs, vous en avez. Voyez en elle ce qui va, ne regardez pas uniquement ce qui ne va pas. Je crois qu'il faut aimer nos épouses parce qu'elles sont avant tout des croyantes, des musulmanes. Ceux qui s'aiment en Dieu, vous connaissez leur récompense et leur place là-haut. Ceux qui s'aiment en Dieu. Mais on croit encore que s'aimer en Dieu, c'est uniquement entre nous, les hommes, à la mosquée, les frères. Non. Elle est aimée, sa femme, parce que Dieu nous demande d'aimer, et Dieu aime ceux qui aiment les autres en Dieu. C'est important. Ne pas donner à l'amour sa dimension uniquement matérielle, uniquement artificielle, mais lui donner une notion spirituelle, une dimension spirituel. Je pense que c'est important. Ensuite, sachez que plus vous connaîtrez la personne et plus vous découvrirez sa grandeur d'âme et ses qualités, plus vous devez l'aimer. Alors il faut du temps pour connaître quelqu'un. Et je crois que s'il y a la sincérité, il n'y a aucune raison de ne pas aimer la personne, quels que soient ses manquements, ses faiblesses et ses défauts. Celui qui est sincère s'en sortira. Si vous avez un conjoint sincère, tenez à votre conjoint et aimez-le à fond, car la sincérité vous sauvera sur terre et dans l'au-delà. Et je pense que de manière générale, dans les couples musulmans, il y a beaucoup de sincérité. Mais ce qui fait que l'amour a tendance à disparaître, c'est que on s'accroche et on ne s'arrête qu'à l'écorce. Et on oublie le fond. Et dès que l'écorce nous déplaît, dès qu'il y a un comportement, il y a une expression qui nous déplaît, la critique prend le dessus sur la raison. Et on finit par condamner, rejeter, détester notre conjoint, alors que il y a une sincérité profonde de sa part. Qu'est-ce qui fait aussi que l'amour disparaît ? Les péchés. Le fait de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Le fait de ne pas baisser son regard. Le fait de draguer, pour nous les hommes, dans la rue, la télévision, mais surtout aujourd'hui Internet. Vous vous rendez compte, c'est devenu un malheur pour beaucoup, Internet. J'ai eu affaire à des conflits dans des couples qui sont dus à quoi ? Qui sont dus à des discussions, des chats, c'est ça ?
Comment ? Oui, c'est exactement ça, le chat.
Le chat. Le chatanisme, plutôt. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Des frères mariés qui discutent avec des filles sur Internet et qui font de la da'wa. On les fait de la da'wa. Ou réciproquement, ma soeur, elle est sur Internet pendant des heures illimitées. Et croyez-moi, j'ai eu affaire à une soeur qui a demandé le divorce parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Faites attention, hein. Ne discutez pas. Ne regardez pas. Et si vous avez regardé, vous avez discuté, baissez votre regard et arrêtez. Le cœur est très très sensible. Le cœur est très sensible. Hein? Shaitan nous envoie des flèches. Pourquoi ? Pour ouvrir une brèche dans l'amour, hein, qui existe entre nos épouses, pour s'installer en nous faisant croire que l'autre est meilleur, beaucoup plus aimable. Et si je vais avec l'autre, je serai épanoui. C'est un leurre. C'est un leurre, c'est une arnaque du diable. Donc faites attention au péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si à l'extérieur vous voyez quelque chose qui déclenche en vous des envies, vous avez une épouse. Hein, ne tombez pas dans le piège. Qu'est-ce qui fait aussi que l'amour a tendance à diminuer, voire à disparaître ? C'est la galère quotidienne, le métro, boulot, dodo. Ainsi, on est pris par nos responsabilités matérielles. Les femmes sont prises par les enfants, la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Et on n'a plus le temps de parler, de dialoguer, d'échanger. On n'a plus le temps de nous aimer. De nous aimer. Et les relations qui existent dans le couple sont des relations qui finissent par être purement matérielles. Il y a une facture, il y a ceci, il y a cela. Et l'amour, ça se résume à des rapports sexuels. Faites attention à la dunya. Elle est puissante. Elle est puissante. L'argent est nécessaire, mais maudit soit cet argent qui fait que je m'éloigne de ma femme. Maudit soit cette dunya qui va faire que mes enfants, ma femme, vont me détester. Préserver le couple et l'amour, ça n'a pas de valeur. Wallah, l'amour, si on pouvait l'acheter à coût de milliards, je pense qu'on l'achèterait parce que c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait aussi que l'amour a tendance à diminuer, voire à disparaître ? C'est le fait de remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire, ne parler que de ce qui ne va pas. Pourquoi tu as fait ceci ? Pourquoi tu n'as pas fait cela ? Hein ? La critique dans un seul sens. Ça blesse, surtout il y a une manière. Et c'est vrai qu'on n'est pas très psychologue avec nos épouses. Hein ? Puisqu'on se connaît, la familiarité, etc. Conclusion, dès que ça me déplaît, scud sur scud. Naram. On envoie des missiles qui vont directement dans le cœur. Et puis le cœur, une fois qu'il est touché, je vous assure que c'est difficile à réparer. Vous allez dire, oui, mais on est bien obligé de dire, Oui, il y a la façon de le dire. Et il y a le moment pour le dire. Et puis il y a aussi une autre manière d'exprimer son mécontentement. Ce n'est pas toujours la parole. Ainsi, faites attention. Il faut se conseiller mutuellement. Mais conseiller quelqu'un en public, ça ne se fait pas. Public, je parle de la famille. Conseiller quelqu'un avec méchanceté, ça ne se fait pas. Il faut que vous considériez vos épouses comme de la porcelaine. Très fragile. Très susceptible, très sensible. Et nous, parce que justement, c'est notre épouse, parce que justement, on croit que on est marié pour le pire et le meilleur, on n'y va plus avec sagesse et avec douceur, et on blesse et on tue. On tue. Qu'est-ce qui fait que l'amour tend à diminuer, à disparaître? La monotonie. La monotonie. Hein? Vous savez, dans le couple, à un moment donné, c'est toujours la même chose. Hein? Les jours passent et repassent et se ressemblent. Alors il faut du piment dans le couple. Hein? C'est pour cela que les échanges sont nécessaires. Hein? Les relations familiales, les échanges dans la communauté. Et puis, s'engager. C'est le fait que le mari soit actif et que la femme soit active. Le couple reste vivant. Et puis, il faut dire aussi la vérité, c'est que celui qui fait des choses pour Dieu, il y a beaucoup de chances que Dieu, sur terre, le récompense avant de le récompenser dans l'au-delà. Mais il faut essayer de faire ça de manière conjointe. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que le fait de s'engager pour la cause communautaire, c'est mauvais pour le couple. Non, il suffit de faire les choses avec intelligence, de manière équilibrée. Et quand on se sent utile et on s'investit, ben on a une raison d'être et de vivre. Mais quand on s'ennuie, on finit par se disputer pour un oui et pour un non. La monotonie, la rengaine de tous les jours gangrène nos couples. Il y a une littérature, vous savez, sur l'amour qui est assez importante, et vous devez vous adonner à la lecture et à l'écoute, parce que, comme je vous ai dit au début, c'est un art, aimer. Il y a des très bons livres. Comment aimer, comment se faire aimer. Comment avoir des amis. Des recettes au quotidien. En résumé, l'amour c'est la plus belle des choses. Mais c'est vrai que ça demande énormément de boulot et de sacrifice sur soi-même. Ce n'est pas impossible. Car dans beaucoup de couples, il y a une déception terrible. J'entends de plus en plus de jeunes garçons et filles qui disent « Tout ça, c'est du baratin. L'amour dans le couple, ça n'existe pas. On est marié pour le pire, le meilleur ne dure pas. » Eh oui, vous avez perdu. Lorsque vous ne croyez plus en l'idéal. L'idéal, il est là, et il faut faire des efforts pour l'atteindre. Il ne va pas venir vers nous. C'est à vous d'aller vers lui. Et c'est un jihad, bon sang. Est-ce que vous comprenez un jihad? Un jihad, un combat. Et si on ne comprend pas que aimer l'autre, ça demande du sacrifice 24 heures sur 24. Et ça demande beaucoup de foi en Dieu, beaucoup de confiance. Il est tout à fait normal qu'on se suicide socialement, si bien que les couples explosent, et quand ils n'explosent pas, on vit comme chat et chien. Frère, que Dieu fasse que nous ayons la force, le courage de combattre notre ennemi qui est à l'intérieur de nous-mêmes, car c'est lui qui crée des problèmes. Et que Dieu nous donne la force d'aimer et de se faire aimer. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.